Eh bien, bonjour pour ce café littéraire consacré à quatre auteurs qui ont plusieurs mérites. Le premier, c'est juste un hasard chronologique. Ils sont tous les quatre auteurs d'un premier roman. Voilà le prétexte pour vous rassembler. J'ai écrit parfois d'autres choses, des nouvelles pour certains d'entre eux, mais premier roman. Roman de fantasy pour Justine Niogret. Roman de science-fiction pour Vincent Gessler. Roman historique pour Mathieu Dena et... C'est quoi, Philippe Despotes? On va en parler tout à l'heure parce que vous, vraiment, c'est un garçon un peu louche. Vous avez, alors, oui, roman fantastique, c'est vrai, sauf qu'on est au début du 20e et on a une présidente de la République qui est une femme. Bon, je ne sens pas que mes souvenirs historiques me rappellent ça. On serait dans une uchronie, donc plutôt dans la science-fiction. Et pourtant, c'est du fantastique parce qu'on parle de mort et de revenant. Bref, il y a aussi beaucoup d'histoires. Donc ce livre est un peu inclassable et vous essaierez de vous en justifier devant notre public tout à l'heure. Et puis, je voulais dire aussi que Vincent Gessler nous vient de Suisse, petite précision, hein, toujours un public suisse, mais là c'est un écrivain suisse. Hein. Il est à la fois dans l'anthologie qu'on présentera, ou qui a été présentée, je ne sais plus exactement, parce que ce n'est pas moi qui m'en charge. Et puis ce premier roman à la Talente, alors... roman de science-fiction post-cataclysmique ou post-apocalyptique, on en dira un mot tout à l'heure. C'est quand même à signaler parce que publier un premier roman à l'Atalante, qui est quand même une maison d'édition réputée dans le domaine de l'imaginaire en particulier, c'est un signe d'intérêt. C'est ce qui d'ailleurs pousse parfois, quand un éditeur a bonne réputation, à ouvrir tout de suite ses livres. Justine Niogret, elle a l'air très sympathique comme ça, mais tout le monde la déteste déjà parce qu'elle sort un premier roman et d'emblée elle a le prix Imaginal du meilleur roman de fantasy de l'année et elle passe par Saint-Malo, fait un détour et elle nous ramène le grand prix de l'imaginaire. Il faudra là aussi s'en expliquer. Mathieu Dena, lui n'a pas fait d'études littéraires, c'est un scientifique, plutôt ingénieur si j'ai bien compris. Et oui. Qu'est-ce qui vous prend à écrire de la littérature quand tant d'auteurs ont du mal à toucher leur public? C'est aussi une question que je vous poserai. Et pour démarrer maintenant un peu plus sérieusement, j'ai vraiment aimé vos quatre livres et c'est pour ça que vous êtes là tout simplement, pour mon plaisir, tout simplement parce que j'ai pensé que c'était intéressant de permettre à des auteurs dont c'était encore une première parution de toucher leur public. On sait que c'est toujours difficile, tout simplement parce que quand on achète ses livres soi-même et qu'on ne les reçoit pas en service de presse, ben, y a toujours cette hésitation de dire « je vais quand même investir 15, 20, 25 euros sur un livre. Est-ce que je ne vais pas être déçu? Je vais peut-être attendre le suivant. » Le problème étant évidemment que si le premier ne marche pas, c'est plutôt une hésitation à faire pour l'éditeur de faire le suivant. Donc un prix ou une reconnaissance, je pense que ça peut toujours être utile. Et j'espère qu'en tout cas, cette petite coup de pouce du festival, qui est bien peu de choses par rapport à ce qui fait le succès d'un livre, sera une toute petite chose qui vous aidera à toucher encore de nouveaux lecteurs. Alors pour commencer... peut-être, on finira par Jean-Philippe Despotes, ce tour de potes, on va plutôt prononcer correctement, ce tour de table, parce que quand même les inclassables, des fois, ça complique la vie. J'ai commencé par Vincent Gessler, puisque c'est notre invité suisse, pour lui demander qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme bien sous tout rapport se décide à commencer à écrire un premier roman dans des genres quand même souvent les plus mal vus dans l'intelligentsia culturelle française, c'est-à-dire la science-fiction.
Heureusement, je ne savais pas que c'était mal vu, donc j'ai bien fait de le faire. C'est Gessler, hein, parce que bon, c'est en Suisse.
Comme le bailli.
Ouais, comme le bailli, exactement comme le bailli. La légende suisse du bailli Gessler, je vais vous l'épargner, pour le coup. Alors, ouais, c'est une question à tiroir multiple, donc j'espère que je vais y répondre pas trop longuement, mais qu'est-ce qui m'a décidé à faire un premier roman? Bon, là, il faudrait évoquer tout mon rapport à la littérature, je vais vous épargner ça aussi. Mais j'ai à un moment donné décidé que j'avais envie d'écrire sérieusement, et j'avais commencé par la nouvelle afin de peaufiner un style, d'apprendre un peu à écrire. Et puis, c'était toujours dans la mire d'écrire un roman. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, j'ai eu plusieurs tentatives malheureuses. Malheureuses parce que je les ai abandonnées, parce que j'étais jamais satisfait en fond, et que j'avais vu mieux ailleurs. Et la science-fiction, ben... j'ai pas l'impression que c'est un genre si mal aimé. Peut-être en France, je crois pas que dans mon anglo-saxon il y a la même réputation de littérature pour ados attardés ou au contraire trop complexe et puis pour gros geeks qui a une énorme cervelle. Donc moi qui ai plutôt lu à l'origine des livres sans trop poser la question, hein, est-ce que je lis un genre? Non, je lis des bouquins. Et puis il se trouve que tous les livres qui parlent des sciences ou qui parlent d'histoire ou qui mettent en perspective les sociétés, les civilisations, bah, c'est ces bouquins qui m'ont fait sentir quelque chose, un vertige, des émotions, une contemplation de mon monde et de mon rapport au monde. Alors hop, c'est ce que j'ai envie d'écrire. Du coup, je n'essaie pas forcément de me positionner par rapport à un genre qui aurait une mauvaise étiquette ou une bonne étiquette. Et après, après coup, on découvre que c'est le cas, on a envie de dire non, stop, et puis de valoriser le genre. Bon, ça, ça serait un autre table ronde, évidemment. Est-ce que j'ai répondu à la question ?
Oui, non, tout à fait, absolument, et on va revenir sur le livre précisément après. Mathieu Dénat, qu'est-ce qui pousse un scientifique, un ingénieur à vouloir devenir écrivain ?
En fait, c'est un concours de circonstances. Donc moi, je suis originaire de Lille, et mon premier travail était sur Paris. Et l'appartement que j'ai trouvé quand je suis arrivé à Paris se trouvait être juste à côté de la maison de Nicolas Flamel, qui est un alchimiste en fait, dont on entend parler par exemple dans Harry Potter ou d'autres bandes dessinées, etc. C'est un personnage mythique de Paris. Et le fait tous les matins de passer devant sa maison le soir en rentrant, qui aujourd'hui est un restaurant, très 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 bien d'ailleurs, l'auberge de Nicolas Flamel. Toutes ces années en fait, où je suis passé devant, ça m'a intrigué. J'ai voulu comprendre qui était ce personnage. Qu'est-ce qu'il y avait comme personnage derrière la légende ? Parce que des légendes, il y en a eu énormément. Et comment ça se fait qu'une personne vieille de 600 ans continue de frapper l'imaginaire aujourd'hui ? Et j'ai cherché donc à construire un roman qui avait une base... historique assez solide. Enfin, je pourrais revenir là-dessus plus en détail, mais je voulais surtout essayer d'ancrer le personnage de l'imaginaire dans quelque chose de très réel, de très concret, dans le Paris du XIVe siècle, avec ses cris, ses odeurs, les gens, les nobles, le clergé, les bourgeois, les ouvriers, etc. Essayer vraiment d'ancrer un personnage qu'on croit être de fiction, mais qui en fait est réel, dans quelque chose du quotidien du XIVe siècle. C'était ça l'ambition.
Justine Niogret, vous débutez avec ce roman de fantasy, Chien du Homme.
Oui.
Un roman de fantasy, on va dire historique, parce qu'on est quand même... Vous auriez pu faire un roman historique.
Hein, oui, oui.
Je crois que vous êtes passionné, vous êtes originaire, enfin en tout cas vous habitez dans une petite ville de Bretagne. Oui. On peut la nommer ici, c'est loin, Dinan.
C'est Dinan, oui.
Voilà, bien sûr que j'ai reconnu tout de suite, origine bretonne. Et puis, voilà, il y a des traditions à Dinan, il y a ne serait-ce que l'histoire d'un personnage très connu, à la fois un breton, un guerrier, et puis quelqu'un qui a joué un rôle important dans la guerre de Cent Ans, Bertrand du Guesclin. Oui. Voilà. Et puis votre passion pour la forge aussi.
Oui, aussi, oui. Toutes les techniques médiévales, en fait, de l'époque médiévale. Voilà.
Et vous auriez pu, avec ça, écrire un premier roman historique et vous avez fait le choix d'un roman de fantasy. Pourquoi ?
Je pense que ça se passe en l'an 1000 et je trouve que c'est très, très difficile d'écrire quelque chose d'historique sur cette époque sans que ça parte dans la fantasy ou dans l'onirisme, puisque je pense que pour ces gens-là, le simple quotidien était quand même assez magique et assez superstitieux. Donc, je pense qu'il faut... Enfin, si on veut écrire, je pense, dans l'esprit de ces gens-là ou montrer leur vie, il faut aussi parler de magie, de onirisme, de symbolisme, tout ça.
Jean-Philippe Depote, vous nous arrivez, vous avez pas mal été dans pas mal de pays, voyagé, vous êtes au Japon, d'après ce que j'ai compris.
Au Japon, oui. Ouais.
Et puis, voilà, l'envie d'écrire, comme pas mal de Français. Et puis, vous auriez pu, vous aussi, comme les gens normaux, écrire de la science-fiction, de la fantasy, du roman historique, au moins comme Sir Cédric, par exemple, du fantastique. Ben non, vous avez fait un roman, encore une fois, pourtant, je crois que j'ai une certaine connaissance des genres, incapable de mettre une étiquette sur ce livre. Et d'après ce que j'ai compris, histoire d'embêter tout le monde, vous êtes visiblement très content du fait qu'on n'arrive pas à mettre une étiquette sur votre roman.
Oui, oui, c'est ce que... Oui, oui. Oui, mais par exemple, je rencontre des libraires qui ne savent pas dans quel rayon placer ce bouquin. Et ça fait plaisir, parce qu'effectivement, comme disait Vincent tout à l'heure, je me suis pas posé la question, en fait. Quand j'ai commencé à écrire le livre, j'ai écrit l'histoire que j'avais envie de raconter sans me demander dans quel rayon de la librairie ça allait être rangé. Et donc, effectivement, c'est franchement fantastique. Mais comme par ailleurs, j'adore l'histoire, c'est aussi très ancré dans l'histoire. Donc là, ça se passe à la Belle Époque, Paris de la Belle Époque, donc 1910 par là. Et puis, j'avais aussi envie de jouer à détrôner des grandes figures historiques. Donc il y a Lénine, Nicolas II... et Papus l'occultiste, donc des figures réelles, et justement pas faire du roman historique, pas essayer de trop respecter ces gens-là, et au contraire de les placer dans des situations un peu abracadabrantes. En fait, l'idée que j'avais, c'était vraiment de découper un morceau de l'histoire réelle, de mettre mon histoire à la place, et de me dire que si on lisait l'histoire dans le bon sens en mettant mon histoire à la place, on s'en rendrait pas compte. Donc on recolle. Mais l'histoire est complètement abracadabrante et assez moderne, quoi. Voilà, c'est ce que j'avais envie de faire. Après, si on ne sait pas où la ranger, c'est plus mon problème.
En tout cas, on sait déjà que, comme les trois autres livres, on a pu le ranger dans les premiers romans de grande qualité, en tout cas, qui ont attiré l'attention du festival. Et c'est déjà beaucoup de plaisir pour nous de vous avoir tous les quatre. Peut-être que, avant de poser une nouvelle question à Vincent Gessler, pour Signis, on va en lire un tout petit extrait. La première balle éparpille le crâne du robot. Au même instant, le fusil pivote et fracasse la nuque du second. Repositionnement. L'épaule de Signe absorbe le dernier choc. La mâchoire du troisième disparaît dans un jaillissement blanc de liquide hydraulique, tandis que la tête roule vers la fosse. Le bourdonnement s'est arrêté. Signe attend une seconde qui dure une éternité, et quand il expire enfin, accélance à toute vitesse, projetant des mottes de terre derrière eux. Il s'arrête devant le corps décapité le plus proche et enfouit sa truffe dans l'ouverture béante du cou. Ses dents métalliques écartent le plastoderme écaillé, les grappes de câbles et les masses de fibres nouées entre elles. Deux trompes d'aspiration glissent des gencives jusqu'aux poches remplies de fluides laiteux enfoncés dans la carcasse. Signe se redresse, l'énorme fusil pendu au creux du coude. En quelques pas, il rejoint Hack, dont la tête dodeline à chaque succion. Il flatte le col de l'animal, égare ses doigts dans le pelage épars. Le corps du loup est strié de bandes synthétiques entrecroisées sans symétrie, alternant des paquets de poils doux et une surface dure et lisse comme la crosse du fusil. Fermement campé sur ses pattes, il aspire tout ce qu'il peut et remplace son propre liquide, dont l'excédent suinte et dégouline par le bas contre la tête du robot. Signe la ramasse et la tient à bout de bras. L'expression des machines ne change jamais. Étrange monde, étrange futur dans Signis. Alors très vite, on devine qu'il s'est passé des choses, ce qui nous attend en gros et ce qu'on nous annonce. Est-ce que certains ne veulent pas voir? Et que ça s'est mal passé, ça s'est mal terminé. Et dans ce monde du futur, on y trouve une sorte de trappeur un peu particulier qui flingue les robots accompagné d'un loup synthétique ou en tout cas demi-synthétique. C'est quoi ce monde de science-fiction Vincent Gessler.
Oui. Bon. Est-ce que c'est vraiment un monde de science-fiction quand on le lit oui, effectivement, il y a un robot. C'est un monde de science-fiction. Il y a eu une apocalypse, un cataclysme, on ne sait pas quoi. Et le monde est recouvert de forêts. Et c'est l'histoire de ce trappeur avec son loup, effectivement. Il y a des robots qui flinguent les hommes, mais on flingue aussi des robots. Donc ça, c'est le début, cet extrait tiré du début. Et pour moi, c'est une manière de planter un décor. Hein. Ce personnage de trappeur, en tout cas, pour seule compagnie, son loup, et puis... qui vit dans un monde un peu brutal. Voilà. C'est quoi pour un monde de science-fiction? Ben c'est Cro-Blanc. C'est Cro-Blanc qui rencontre Akira. C'est ça. Hein, c'est quoi pour un monde de science-fiction? C'est un monde dans lequel on essaie d'emmener le lecteur, qui a beaucoup de nature, qui a finalement peu de technologie. Hein, ces robots, on les voit tout de suite. Puis, au fond, il reste les éléments les plus technologiques du récit. C'est pour ça que je disais, bon, de la science-fiction, d'accord, mais en fin de compte... C'est une anticipation à plus ou moins long terme, mais où on trouve un monde qui ressemble au Québec du XVIIe siècle. Les repères sont des repères de sociétés qui essaient de survivre, qui sont des petites sociétés, qu'on nous ait des nouvelles normes sociales, tribales, et on vit sur, les, sur le souvenir d'un traumatisme, d'une apocalypse. J'ai essayé de mettre un monde qui a fait table rase d'une autre, et puis qui réinterprète les signes et les récits d'une autre. Alors, c'est à la fois... bon, c'est peut-être prématuré maintenant de parler de la mythologie ou des récits qui entrecroisent le roman, mais il y a ça aussi. Et donc, pour moi, le récit post-apocalyptique, il permet ça. Il permet vraiment de prendre un point très lointain, de faire table rase sur tout ce qu'on sait et de voir qu'est-ce qui est commun à l'être humain dans toutes les périodes, soit très loin dans le passé, soit maintenant, soit très loin dans le futur, et puis de tresser quelque chose. Alors c'est un choix pour moi qui est le post-apocalyptique est très important pour ça, parce qu'il permet justement de parler du passé et du futur, d'entrecroiser et d'essayer, si possible, de faire quelque chose de nouveau.
Justine Niogré, un petit extrait de Chien Duhaume. Chien Duhaume comprit pourquoi le chevalier sanglier portait ce nom lorsqu'elle le vit, assis à sa table. Ils étaient dans sa forteresse et les hommes d'armes du chevalier avaient déjà pris place. C'était une troupe d'hommes, comme on en voit dans les campagnes que l'hiver ne quitte jamais tout à fait, tous semblables à leur chef, grands, larges et hirsutes. Ils étaient enroulés dans des capes de fourrure graissées par les pluies et la terre, où ils dormaient parfois, les joues mangées par une barbe où roulait déjà du vin. Ils souriaient tous, une grimace d'enfanson à la sieste dans un visage de brute où s'en mêlaient les cicatrices. Chien les crut nus, à la façon des gens du sud, c'est-à-dire sans bijoux de clan, ni métal tressé autour des bras, jusqu'à ce qu'elle vit un éclat mat à leur gorge, au creux des fourrures. C'était le bronze de leur torque, assombri par le sang et la fumée des feux. Quant à la biche, elle était posée sur la table, dans un grand plat. Les cuisiniers l'avaient fait cuire toute nue, pelée, si l'on peut dire, avant de la rhabiller de sa fourrure. Elle était couchée en rond, dans un plat, tout empli de mousse des bois et de verdure. Elle semblait dormir dans le creux de son assiette. Et si Chien n'avait pas su que le champignon posé devant son museau n'était là que pour en cacher l'absence, le tour aurait été parfait. Les guerriers de l'Ost se mirent à crier dès que Chien entra dans la salle et l'encouragèrent à aller s'asseoir en frappant leurs cornes à boire et leurs casques de fer sur la table. Le chevalier cognait son homme plus fort que tous et en le voyant, elle comprit que sanglier il était par sa hache et jusqu'à la pointe de l'armure. Son casque était fort ouvragé, avec en crête jusqu'à la nuque des soies de métal dur dressées comme pour montrer l'attaque. Et en leur sommet, tout en haut du crâne, un petit sanglier de bronze exhibait ses défenses dans l'exacte posture qu'ils prennent avant d'éventrer Jean et Chien. Et le son de son homme contre la table faisait le bruit même d'une lame qui heurte un billot. Ben voilà, le décor est posé. Justine Niogré, alors trois choses quand même qui me frappent. La première chose, c'est l'écriture.
Merci.
Et franchement, on y reviendra sur le rôle de l'importance que vous attachez à l'écriture dans un roman d'aventure, un roman de fantasy, une soi-disant sous-littérature pour certains imbéciles. Deuxième chose, non, mais il faut dire les choses à un moment donné, voilà, tranquillement, aujourd'hui, la victoire de l'imaginaire et la défaite des ânes, donc je crois que c'est, voilà, on peut être serein au bout de 9 ans de festival et en voyant comme la littérature est en train de changer grâce aux lecteurs, surtout, il y a certains éditeurs qui font aussi bien leur travail. Donc, premier point, c'est celui-là, l'écriture. Le deuxième point, c'est les mots, c'est la façon dont on sent que vous employez des termes, qui sont des termes et pas au hasard et pas improvisés, donc un minimum de travail de recherche, je pense, et en tout cas de connaissance minimum du Moyen-Âge, même si c'est lointain. Et la troisième chose, c'est le personnage. Parce qu'on ne le dit pas encore là, mais vous avez peut-être deviné, Chien Duhaume, c'est avec sa hache qui est représentée, c'est une femme. Ce mercenaire, qui est une tueuse quand il le faut, c'est une femme. Ce personnage brutal, dur, au milieu des hommes, de violence, c'est une femme. Alors, on parlera de l'écriture tout à l'heure, mais la première question, c'est, on voit des femmes qui ont de plus en plus de place dans la fantaisie, mais une femme mercenaire, guerrière, combattante et qui tue, et à sa place au milieu des hommes, ça vous est venu d'où, cette idée, Justine Niogré ?
De ma vision, qui vaut ce qu'elle vaut du Moyen-Âge, je pense que quand on vit dans une société où il y a 25, 30, 30 personnes qui sont aptes à se battre et à défendre le clan, le village, etc., si il y a une fille de 20 ans qui dit « moi aussi je prends les armes et je combats avec vous », je vois pas trop comment on peut lui dire non, en sachant qu'on risque quand même la vie de tout le monde. Je vois pas trop comment on peut la forcer à ne pas aller se battre. Je pense qu'il y a eu, enfin c'est pas que je pense, il y a eu des femmes mercenaires, il y a eu des femmes combattantes à l'époque. C'est sûr que bon, c'était pas 50%, c'était peut-être même pas 1%, mais il y en a eu. C'est quand même le Moyen-Âge est aussi une période de liberté, peut-être plus que maintenant. Et voilà, quelqu'un qui veut prendre les armes, il les prend. Il y a pas, c'est sur le terrain après qu'il fait ses preuves ou pas. C'est pas vis-à-vis d'une société et d'une vision de la société sur les gens.
Le souci historique, le descriptif du repas, des rapports des chevaliers, alors comment ils sont habillés, comment ils ont du bijou, ils en ont pas, c'est important pour donner de la crédibilité à votre roman.
Je pense, oui. C'est une époque qu'on a fantasmé, qu'on a un petit peu phagocyté dans notre imaginaire commun. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir aussi une accroche tout à fait, enfin, réaliste le plus possible de cette époque, de ces gens, de ce qu'ils mangeaient, de ce qu'ils voyaient, de leur façon de voir. Mettre vraiment quelque chose de définitif dans le sens définition de la chose, de ce qu'ils faisaient.
Autre chose qui m'a frappé, alors la qualité de l'écriture, je crois que tout le monde l'a remarqué, et puis c'est un des éléments du prix, il faut faire avec, hein, Justine. On a écrit les livres qu'on a écrits, on l'assume. C'est un beau livre, c'est bien écrit, tant pis pour vous. Donc, plus sérieusement, je dirais que votre livre, on sent, il y a aussi, c'est un ton, c'est une écriture particulière. C'est une sonorité particulière, on sent que vous avez travaillé sur ça. Et c'est pas si fréquent, il y a maintenant des romans de fantasy merveilleusement bien écrits, on en parlait ce matin avec Jacqueline Carré, mais quand même, on sent que vous y avez attaché beaucoup d'importance, et dès ce premier livre, on trouve qu'il y a une maturité incroyable justement de l'écriture, et vous avez une voix qui est vraiment, dans le domaine de la fantasy française, égale à vraiment personne, et c'est aussi pour ça que j'ai publié avec plaisir votre texte dans l'anthologie du festival. Ça vous est venu d'où aussi cette volonté d'écrire comme ça?
En fait, j'ai pas spécialement travaillé le style. J'écris comme ça, enfin comme ça me vient surtout. Mais je pense que c'est il y a une soulerie des mots, en fait. C'est quelque chose qui effectivement, par exemple chez Silverberg, c'est quelque chose qui résonne. Enfin, il y a effectivement une sonorité spéciale, il y a un rythme, il y a quelque chose qui touche et qui enivre. Je pense, enfin, j'ai cet amour-là des mots. Alors, je sais pas du tout ce que j'écris, mais quand je lis ça, je le reconnais très très franchement.
Du Moyen Âge, on passe à la Renaissance, hein, ou presque. Juste avant, on est vraiment à la charnière justement. C'est en ça que c'est une période passionnante, celle de Saltarello, Mathieu Dena. Petit extrait là aussi, pas tout à fait la même langue. À cet instant, parmi la foule qui circulait devant la taverne, nos deux compères virent passer l'apprenti boucher au brioche cul, marchant d'un pas alerte aux côtés de Guillaume Tirel, cuisinier du dauphin du Viennois, et qui se faisait habituellement appeler Taïvan. Un petit singe gris, tenu en laisse par le boucher, trottinait derrière eux. Aubry-Oscu, fils d'Aubry-Oscu, lui-même fils d'Aubry-Oscu, fils sans doute d'Aubry tout court, était boucher donc de père en fils. Corpulent dès le premier jour, il avait à sa naissance causé le décès prématuré de sa mère dans un déluge de sang, d'eau et d'excréments. Il s'était retrouvé fils unique, héritier du plus important des étals de la grande boucherie de la rive droite. Même si une bonne vingtaine d'années le séparait de son meilleur ami Taïvan, les deux hommes avaient toujours joué, grandi et appris la vie dans la rue des Écorcheurs. Ce dernier, client de longue date d'Aubry, le père d'Aubry, était parvenu en quelques années à se hisser au sommet de la gastronomie parisienne grâce à ses recettes inventives et goûteuses. Ces temps-ci, son maître étant à l'étranger, il se trouvait en prêt chez le duc de Berry. Et même s'il fréquentait désormais les cuisines les plus nobles de Paris, il continuait de s'approvisionner chez les Oscu, signe que leur viande était la meilleure que l'on pût trouver. Fort grand, une colle en coton blanc en permanence sur la tête, il entretenait avec soin une barbichette à deux pointes, tombant de part et d'autre de son menton. Il y portait souvent la main de façon inconsciente, s'assurant que sa fossette était bien visible. C'est à ce moment-là que, très exactement sur le sommet du crâne du jeune boucher, s'écrasa la fiente d'un volatile malpropre. Le liquide, à la fois gras et visqueux, gris et glauque, dégoulina jusque sur ses joues. s'exclama l'étuvier, affalé sur son siège. Vise un peu le boucher, là. Borgne pute. Ah, mais par le saint sang de la Fierche Marie, c'est quoi cet oiseau de molleur qui m'a chié dessus? Pouah, la filaine fiante qu'il m'a envoyée, je ne peux pas le croire. Ah ben, c'est typique, en tout cas. C'est un langage, c'est une époque, c'est une langue verte. Vous l'avez complètement inventé, Mathieu Desnats, ou finalement vous avez vraiment travaillé les sources pour être sûr qu'on parlait vraiment comme ça, avec cette truculence, à cette époque?
On ne peut pas savoir comment les gens parlaient entre eux. En fait, j'ai pris le parti d'inventer une langue à la fois très, très proche de nous et à la fois véridique, dans le sens où j'ai pris un soin particulier à veiller qu'il n'y ait pas d'anachronisme dans le vocabulaire, dans les situations, dans les descriptions des habits, ou même des situations dans lesquelles les gens se trouvaient. Donc après, le personnage, en l'occurrence d'Aubry Oscu, c'est vrai qu'il est truculent, il exagère, c'est un petit peu le fil conducteur du roman. C'est un personnage qui est secondaire dans l'intrigue, mais qui est principal. En général, c'est de lui dont on se souvient après avoir lu le roman.
Et vous dites que vous avez travaillé, je crois qu'il y aura demain un débat avec justement l'historienne qui a travaillé avec vous là-dessus.
Absolument, le roman a été relu et corrigé par une historienne, justement pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'anachronisme. Et elle m'a aussi conseillé sur des petits détails, sur des précisions historiques pour lesquelles, bon, j'avais fait des recherches, mais qui m'avaient sans doute échappé. Vous l'avez rappelé, j'ai fait des études scientifiques et non pas, enfin, je suis pas historien de formation. Donc malgré la documentation sur laquelle je m'étais appuyé, en fait, il y a tout un tas de petits détails de la vie quotidienne que j'ai pu peaufiner justement avec l'historienne quand j'ai retravaillé mon texte.
Et pourquoi vous avez choisi d'écrire un roman historique et cette époque particulièrement? Qu'est-ce qui vous passionnait, fascinait? Et puis évidemment, à votre avis, qui a dû pouvoir fasciner le lecteur, mais ça, ceux qui liront le livre, y compris ceux qui ne lisent que de l'imaginaire, hein, pas non plus rester dans les cases. Vraiment, si vous voulez découvrir un roman historique, bon, vous verrez, c'est un chouette roman.
En fait, le XIVe siècle, c'est une période qui est fascinante, parce que faut bien voir que dans la première moitié du XIVe siècle, il s'est passé deux événements majeurs. Il y a eu le schisme de l'Église qui a vraiment fait réfléchir les gens et qui a créé une cinquantaine d'années plus tard tout le mouvement de la réforme, parce que les gens sont mis en retrait par rapport au pape, le pape d'Avignon qui dépensait des richesses. Est-ce qu'on avait besoin de ça à cette époque? Et l'autre événement majeur de la première moitié du XIVe siècle, c'est la grande peste de 1348, qui a démarré en 1348 et qui ensuite s'est propagée dans toute l'Europe et qui a tué, on n'a pas de chiffre exact, c'est très difficile à estimer, mais sans doute à peu près la moitié de la population européenne. Donc il faut imaginer que c'est quelque chose d'absolument tragique qui s'est passé entre 1348 et 1350 et qui a ensuite créé une sorte de, je dirais presque de pré-renaissance, ou en tout cas c'est ce qui a fait, ce qui a créé une émergence, une prise de conscience de la mort, et ce qui a créé toute une forme artistique et un renouveau scientifique, un renouveau dans la littérature, dans l'art, etc. Et on peut dire que la Renaissance, elle est née à ce moment-là, sur les cendres de la grande peste de 1348. Et donc cette période, mon roman se passe dans la deuxième moitié du XIVe siècle. Cette période-là est vraiment une période d'ébullition. Et donc, en fait, c'est ça qui m'a intéressé, moi.
Autre ébullition, Paris, début du siècle. Pas tout à fait notre Paris. On disait que c'était un univers un peu décalé. Alors, première page, très vite, on entre dans le vif du sujet. Donc, vous découvrirez, on vient d'assassiner des civils, des femmes en particulier, au bazar de l'hôtel de ville. Voilà. Un lieu, décidément, où il s'est passé beaucoup de drames. Et on a conduit les morts à la morgue. Et il y a un incident. Il y a évidemment des femmes en particulier qui veulent voir leur mort. Et on va se rendre compte qu'on est dans un drôle d'univers. Monseigneur Grabeuf, laissez-nous entrer avec vous, s'il vous plaît, implorait-elle. Depuis combien de temps était-elle ici? Il avisa les deux agents de la paix qui barraient la porte. Allez-vous donc en faire entrer ces dames ? Ordonna-t-il en pressant le pas. Pour Pichard et Simonet, la séparation de l'Église et de l'État restait une notion toute théorique et trop récente. Un évêque devait bien se situer quelque part au-dessus d'eux dans la ligne hiérarchique. Ils s'effacèrent sans hésiter. Monseigneur Grabeuf, entre ses deux gardes suisses improvisés, se retourna face à la foule. « Entrez, mesdames, je demanderai au sort qu'elle vous prépare une soupe. » Un joli visage du premier rang, auquel les larmes conféraient une certaine beauté, profita d'un moment de silence. « Ma sœur est morte aujourd'hui devant le magasin. Alors je voudrais voir le père Joseph. » « Joseph !» L'évêque leva un sourcil, c'était comme un ulcère qui gâche un bon repas. « Quand on a Monseigneur Grabeuf, pourquoi demander un foutu séminariste ? Et pourquoi ce Brutus devait-il toujours gâcher la fête ? Dites au père Joseph de veiller sur nos morts. Maintenant c'était parti, il aurait dû s'y préparer, c'était tellement inévitable. Joseph, le nom s'était envolé, bondissait de lèvre en lèvre. Il enflait, se multipliait, encerclait le gros évêque qui feignait encore de ne pas l'entendre. Saint Joseph ! Avec toute cette fatigue et cette détresse, la digue avait lâché. Et c'est comme si les bourgeois scandaient maintenant la première page du petit journal. Saint Joseph des morts ! L'évêque écarta les bras. Réflexe de messe, toutes les dames se turent. Celles qui s'étaient assises au bord du trottoir se relevèrent. « Le père Joseph est à l'intérieur, mesdames, il se tient bien sûr au chevet de vos proches. Je joindrai mes prières aux siennes pour recommander à notre Seigneur le repos éternel pour l'âme de nos défunts. » Le soulagement était palpable. Comment ce jeune séminariste avait-il réussi cela ? Il n'était même pas encore prêtre. À première vue, ce petit était une bénédiction pour le diocèse, la Bernadette Soubirous de Notre-Dame. Mais cette façon qu'avait son seul nom de ramener la sérénité sur ses visages endeuillés, c'était blessant. Monseigneur Grabeuf se bâcla un sourire de circonstance, pivota et hâta le pas. Comme il passait le porche, un dernier Saint-Joseph des morts l'atteignit dans le dos. Dans le couloir qui menait à la morgue de l'hôpital, son secrétaire le rattrapa. « Monseigneur, permettez-moi de vous rappeler que le dîner de monsieur le maire débute à 8 heures à l'hôtel de ville. Alors il est maintenu ?»« Oui, les services de la voirie auront effacé les traces de l'attentat à la bonne heure. » Loin des regards, il recouvra sa mine satisfaite. « Il ne reste que 40 minutes, monseigneur. » L'évêque savait que cette entrevue improvisée tracassait son secrétaire. Mais il ne pouvait laisser Joseph seul au milieu de cette crise. Il devait garder le contrôle. C'était un problème de discipline, rien de plus. Ce petit, il l'avait accueilli à l'âge de 8 ans. C'était comme un fils qui doit respecter son père. Déjà, à l'époque, son histoire avait fait pleurer toutes les Augustines. Et aujourd'hui, Saint-Joseph était devenu un charbon ardent qui faisait la couverture des journaux. Pourtant, il sentait bien que ce petit pouvait faire la grandeur de l'évêché. Il suffisait de bien le prendre. Une fois ordonné prêtre, il rentrerait dans le rang. Il n'aurait pas le choix. C'est le Vatican qui fait les saints. Pas les journalistes. Donc, ce Saint-Joseph des morts, on nous a dit un petit mot pour qu'on donne encore plus envie à nos festivaliers de découvrir les démons de Paris.
Donc, en fait, c'est un séminariste donc, qui a une semaine d'être ordonné prêtre. Et donc, il a le pouvoir de parler avec les morts. Et c'est donc un pouvoir qu'il utilise en fait en tant que prêtre. Pour, enfin, donc, de prêtre en devenir, pour en fait accompagner les morts dans leurs premiers pas dans l'au-delà. Et donc, d'une certaine manière, il utilise ça de façon assez simple. Et c'est ce qu'il met en contact avec ces mortes du mitraillage de l'hôtel de ville. Mais aussi, il a un petit côté du moine Mendel qui découvre. La génétique, il a un petit côté scientifique et il ne peut pas s'empêcher à chaque fois qu'il discute avec un défunt de glisser quelques questions à la fin de l'entretien pour essayer de deviner, de comprendre ce qu'il y a derrière et de se faire un peu son astrophysique de l'au-delà et d'essayer de comprendre comment ça marche et comment sont disposés les enfers et le paradis. Et tout ça va l'emmener dans une aventure qui en fait le dépasse complètement et qui fait qu'il va évoluer tout au long du roman et quelque part qui va en fait plus se rapprocher de ce que doit être un prêtre qu'il est quelque part pas du tout au début. Au début, il est vraiment mal dégrossi et assez jeune dans sa façon de voir les choses Et en fait, les épreuves qu'il va traverser vont un peu plus le rapprocher de ce que doit vraiment être un prêtre.
Je trouve que dans ce roman, il y a vraiment toute une... On a l'impression qu'il y a quand même un goût, un rappel discret, mais de la littérature populaire du 19e, de sa société secrète, de ses complots, de rocambole. Enfin, il y a un petit peu quand même, j'ai l'impression, peut-être aussi Gaston Leroux. Enfin, il y a l'impression, tout en étant un livre très moderne, hein, il n'est pas du tout vieillot, ni dans l'écriture, ni dans la construction, ni dans la narration, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même... Allez, je vais employer des grands mots, mais une version postmoderne un peu de cette tradition littéraire du 19e siècle, des feuilletonistes, je me trompe ?
En fait, je me suis plutôt laissé porter par l'époque et puis par la vision que j'en avais, en fait, qui sans doute vient peut-être de là. Mais plus concrètement, moi, je pense que mon inspiration numéro un quant à l'époque et à la vision que j'en avais, c'est Tardy, en fait. C'est Adèle Blanc-Sec et le Paris de Tardy, donc qui est vraiment justement toujours à mi-chemin entre ce qui est rigoureux, scientifique. Il y a donc des belles machines en cuivre, et puis à côté de ça, des médiums, des spirites, et on est tout le temps à cheval entre deux mondes, et des personnages principaux qui ont toujours une espèce de petit recul par rapport aux événements, et une petite vision un peu ironique et un peu détachée de ce qu'ils traversent.
Dans la violence qu'il y a dans vos livres, Justine, enfin dans votre livre en l'occurrence, pour le moment, je sais que vous en écrivez déjà un autre, j'ai l'impression quand même qu'il y a une extraordinaire violence. Alors est-ce que c'est la violence des temps ? Je dis celle de la nôtre, non. Hein, on va y penser, n'est pas non plus simple. Mais est-ce qu'il y a quand même l'impression que la violence est naturelle et acceptée ? Je ne dis pas que les gens n'en souffrent pas, mais que dans ce monde-là, voilà, c'est naturel la mort, c'est naturel les combats. C'est comme ça que ça se passe.
Je crois qu'effectivement, il y a une dédramatisation de la violence, de la mort, de l'assassinat, de la justice qui était absolument abominable. Je pense surtout que c'est une certaine brutalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant de lancer une réaction violente à quelque chose, il y a un temps de maturation, il y a un temps de construction mentale, etc. Tellement on est bloqué sur la position off. Et dans un monde médiéval du XIe siècle, je pense que ces réponses-là sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus naturelles, beaucoup plus acceptées aussi et tolérées par la société. Et je pense que c'est une question de temps de réaction, en fait. Oui, c'est brutal parce que c'est tout de suite.
Dans le monde quelques siècles plus tard de Saltarello, Mathieu Dena, la violence, comment elle s'exprime ?
Elle s'exprime à de multiples niveaux, autant dans la rue par la difficulté, la pauvreté, la survie tout simplement, autant dans les couches les plus élevées de la société, où là je me suis un petit peu fait plaisir à inventer des histoires de complots, de machinations où on a l'impression qu'il y a des puissants un peu obscurs qui tirent les fils. Et pour faire face à tous ces mystères, toutes ces incompréhensions, les gens, en général, se réfugient soit dans la religion, mais dans son côté, je dirais, lumineux, qui est tout simplement l'Église, soit dans son côté obscur, qui est les sectes satanistes ou différentes formes d'hérésie. Il y avait énormément de mouvements qui étaient considérés comme hérétiques au Moyen-Âge. Il y en a plusieurs qui sont abordés dans Saltarello. C'était des moyens de réaction face à des choses qu'ils ne comprenaient pas, face à soit des déchaînements de la nature. J'ai parlé de la peste tout à l'heure, mais ça peut être aussi les guerres, les croisades, etc. Et quand une société devient essentiellement composée de femmes parce que tous les hommes sont partis à la guerre et ne sont pas revenus, il y a des interrogations. Et donc pour trouver des réponses qu'on n'a pas, les gens se réfugient en général dans ce qu'ils peuvent, quoi, dans la religion ou d'autres formes de religion. Quoi.
Ce qui m'a frappé d'ailleurs dans tous vos romans, on reviendra sur celui de Vincent Gessler, évidemment, un peu moins pour des raisons évidentes, mais dans vos trois romans, Jean-Philippe Depote, Mathieu Dena, Justine Niogret, ce qui m'a frappé, c'est on y est. C'est-à-dire qu'on est vraiment plongé dans l'époque et dans les lieux surtout. C'est des romans, ça m'a frappé. Les lieux sont moins précis, c'est Justine Diogré, mais néanmoins, on est dans la salle de banquet. On est devant le château, on est dans la chambre. C'est-à-dire qu'on est, sans pourtant qu'il y ait des descriptions très approfondies, on est dans le lieu. Vraiment, c'est des romans où, voilà, on est plongé dedans. C'est pareil, dans, alors là, vraiment, dans les rues, les dédales, l'intérieur. On est complètement dans cet univers, et chez Jean-Philippe Depote aussi. C'est-à-dire que j'ai l'impression, on viendra après, hein, peut-être la différence là, qui, évidemment, la science-fiction, c'est le futur, donc la façon de l'aborder ne peut pas être la même, mais chez vous trois, de façon différente, la question des lieux, de la, une sorte de chair du lieu, je ne sais pas comment l'exprimer, c'est très sensible dans vos romans. Est-ce que je me trompe, Mathieu Dena?
C'est effectivement quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand des gens retrouvent des lieux, des rues qui sont décrites dans mon roman, qui existent encore aujourd'hui, 600 ans plus tard, tout simplement parce que bon, c'est des petites ruelles du centre de Paris qui sont plus très connues, mais en passant devant, les gens se disent « mais tiens, c'est quand même extraordinaire que depuis 600 ans, cette rue existe et elle porte le même nom ». Et ça donne un peu le vertige de se dire que Paris, c'est quand même un peu une ville extraordinaire pour ça. Et moi, ça me tenait particulièrement à cœur d'ancrer vraiment mon roman dans la réalité du Paris du XIVe siècle. Et donc, c'est pour ça que les lieux, pour moi, sont très importants, effectivement.
On parlera d'ailleurs, il y a un café littéraire sur Paris, mais Jean-Philippe Depote, vous aussi, les lieux de Paris, les endroits, le pont, ce prêtre, on passe sur le pont, j'ai plus le nom en tête, mais de Paris.
Le pont d'Arcole.
Voilà, exactement, c'est très connu. Et donc, on voit les lieux, là, quand on a l'occasion, soit on est parisien, soit on a l'occasion d'aller à Paris quand même assez souvent. Et voilà, là aussi, on vous suit, avec les personnages, on est dans les lieux.
Oui, moi je pense que ça vient peut-être plus du cinéma, ça, parce qu'en fait, c'est une grande source d'inspiration, où je regarde énormément de films. Et effectivement, quand j'ai attaqué une scène, j'essayais avant tout de me la visualiser, et c'est peut-être ça qui se ressent après dans le texte. C'est quelque part, oui, j'ai fait que décrire ce que je voyais, quoi. Et en particulier, je me suis aussi beaucoup inspiré de photos d'époque, non pas pour le réalisme historique, mais pour l'inspiration, Et en particulier en faisant les recherches pour le livre, pour les lieux du livre, j'ai découvert un lieu fantastique qui est le Luna Park de la Porte Maillot, où donc il y avait un Luna Park à Paris en 1910, donc un Disney quoi, à la Porte Maillot, avec dont j'ai trouvé des photos avec des dames en grande robe et des hommes en canotier dans des petits chariots dans les montagnes russes. Et rien que ça, c'est voilà, je me suis dit, il faut à tout prix que ce lieu-là soit dans mon bouquin, et donc forcément après, je me suis un peu régalé et étendu sur les descriptions de ce genre de lieu.
Et les lieux chez vous, alors on n'est pas dans une ville précise, on est sur un univers qui est inventé, on a moins cet appui sur un certain réalisme qui est utilisé dans vos fictions. Mais on est quand même dans les lieux, mais j'ai l'impression, j'ai ressenti ça dans votre roman, une sorte de pesanteur et d'enfermement, y compris quand ils essaient de sortir du château, quand ils sont dans la forêt, on a l'impression toujours qu'on ne va pas si loin que ça, finalement, Justine Diogré, dans le roman.
Oui, je pense que enfin, le livre est en quelque sorte, comment dire, dépend énormément de la façon de voir du personnage principal, qui elle-même est très... Elle se limite elle-même, en fait, sur plein de plans psychologiques. Enfin, bref, on s'en fout. Mais oui, enfin, elle-même ne veut pas voir loin. Elle n'a pas envie parce que sa vie est immonde, en fait. Elle essaye de s'en sortir. Elle ne veut pas voir qu'au-delà, il peut effectivement y avoir des horizons, des paysages, des choses complexes, des choses qui donnent de l'espoir et qui donnent envie. Donc elle garde vraiment le nez vers le sol. C'est sa façon de faire, je pense.
Je disais, elle relève la tête avec l'âge quand elle la relève. Ouais. Vincent Gessler, c'est différent, évidemment, c'est dans le futur. Donc, vous n'avez pas vous appuyer sur la description du quartier de Paris, etc. On est vraiment dans un autre monde, un monde où le peu qui est reconstruit tient plutôt du village que d'une prolongation de nos villes actuelles. On est dans un univers de l'ailleurs où il reste des vestiges, en fait, en quelque sorte.
Oui, alors... L'occupation de l'espace, elle est là aussi à des fins bon, dramatiques, mais aussi symboliques. Donc il y a deux sociétés en opposition, une qui vit sur un grand pic et l'autre dans une falaise creusée de grottes. Je vous laisse interpréter, malgré le cassage en règle de Freud par Onfray, les symboles qui sont là. Non, mais c'est vrai, c'est toujours une occupation symbolique de l'espace. Ça, c'est quelque chose que j'ai voulu systématiquement pour que, ben, on peut avoir une première approche du texte au premier degré, il se laisse lire et voilà, et c'est un élément de décor. Et il y a aussi, on peut, si on veut, se livrer à une interprétation avec une série de symboles. Parce qu'au fond, ce qui m'intéressait, c'était pas de parler d'un monde complètement coupé d'une autre, sans aucun rapport. Alors c'est vrai que si c'est pas les lieux qui sont investis ici, c'est plutôt des normes sociales. Vous parliez avant de la violence. On a parlé de la violence normalisée au Moyen-Âge, dans l'Antiquité. Par contre, là, je suis un peu moins d'accord avec ce qui a été dit sur la violence. Et là, bah, justement, je l'ai aussi mis en scène dans une société où la violence s'exerce de façon... Il n'y a pas vraiment d'autorité centrale, donc on règle ça soit par le duel, soit par la guerre. Et donc la règle, c'est une manière de normaliser la violence. Et là, bah, je me suis plus inspiré de ces sociétés antiques, justement, où on peut avoir trois bonhommes qui s'affrontent, trois Horaces, trois Curias, ils se mettent sur la figure, et puis celui qui représente sa société, qui l'emporte, fait gagner sa société. Par exemple, à un moment donné, il y a une guerre qui est décrite, et c'est la guerre des Gaules. C'est vraiment l'opposition des... en ligne de bataille telle qu'on pouvait l'avoir chez les tribus gauloises. Je me suis toujours systématiquement inspiré d'une norme historique réelle pour trouver justement une couleur, une texture. Et je crois que ça permet de mettre en valeur ce qui a... Je ne sais pas si on peut parler de choses universelles en être humain, mais en tout cas certains invariants dans l'histoire. L'histoire de la violence, c'est aussi l'histoire d'une confiscation par l'État, par ceux qui veulent exercer le pouvoir et qui confisquent la violence. Avant, on réglait ça en système de vendetta. Vous parlez du 14e, c'est aussi un épisode important pour la manière dont l'État confisque ça, dont progressivement on interdit les duels, etc. Et puis, mettons que tout ça tombe, que la société s'effondre, on revient à quoi ? Comment on règle ça ? Quelles sont les nouvelles normes sociales qui peuvent émerger ? Si on rajoute à ça en plus un traumatisme de la société... Est-ce qu'on ne va pas plutôt qu'avoir envie de faire une guerre totale, ce qui est un concept relativement moderne, avoir envie justement de ne pas avoir trop de pertes? Quand une société est en danger, doit faire la guerre, ils n'ont pas forcément intérêt à perdre tous leurs jeunes hommes, etc. Donc voilà, il y a une occupation de l'espace qui est plus symbolique, mais par contre, une occupation de l'espace social, du récit, qui est systématiquement référentiel, et qui, j'espère... est un écho à l'occupation de l'espace de ces récits plus historiques.
Et bien justement, ça va être le mot de la fin, parce que l'occupation de l'espace va devoir se terminer, parce qu'on arrive presque à l'heure. On a même pris 5 minutes de plus, mais ça va, on va tenir notre horaire. J'en profite pour rappeler donc, dans le supplément, j'ai dit à quel point on pensait du bien, moi-même d'abord, et l'équipe ensuite, puisqu'on est plusieurs à avoir lu vos romans, de vos 4 premiers romans. Et ça en annonce plein d'autres très beaux, j'imagine. Jean-Philippe Depote, Les démons de Paris, aux éditions de Noël. Vincent Gessler, Signis, aux éditions La Talente. Justine Niogré, Chien du Homme, prix Imaginal du meilleur roman de fantasy de l'année, entre autres, puisqu'il y en a une autre. Et Saltarello, roman historique de Mathieu Dénin. Je vous incite à retrouver nos 4 romanciers de premier roman. Mais bon sang, il y a 20 ans, on ne lisait pas autant de premiers romans aussi brillants, aussi matures. Bravo à tous les 4. Merci. Merci. Évidemment, ils vont à la bulle du livre pour dédicacer leurs ouvrages immédiatement.
Pas moi qui suis à la table ronde sur la Suisse.
C'est moi qui fais l'horaire, je m'en souvenais plus. Vincent Gessler, donc, on le retrouvera dans une heure. Il signera pour les 2 tables rondes après son débat.